De Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pour ne pas oublier que dans tout un pays, les femmes sont dans la nuit. France Inter est avec les Afghanes. Aujourd'hui, leur voix que les talibans veulent faire taire. Nous les entendrons tout au long de cette journée spéciale. Et nous serons dans un instant à Kaboul avec l'une de ces femmes qui prend le risque de parler. 70 ans de viol et d'agression, l'état des lieux de la pédophilie dans l'église de France. Attendu à 9h ce matin, la commission Sauvé va rendre son rapport. L'ampleur des crimes, on le sait déjà, est vertigineuse. Des ordures qui coulent vers la mer, charriées par les pluies diluviennes d'hier. C'est le deuxième effet des inondations à Marseille et nous y serons. Et puis la France, sous nos yeux, économie, paysage, mode de vie, c'est la photo que va nous décrire votre invité tout à l'heure.
Dans un livre passionnant, ouais, Jérôme Fourquet, aux éditions du Seuil, La France sous nos yeux avec Jean-Laurent Casly. On va découvrir tout simplement un certain nombre d'aspects de la France qui nous semblait invisible jusque-là. 01 45 24 7000.
Quand les déçus du Rassemblement National se tournent vers Éric Zemmour, c'est une lame de fond dans les fédérations, nous dira Élodie Forêt. Et puis nous serons aussi en Angleterre où le bacon est en danger, faute de boucher. Et à Londres, comme à Paris et à Vichy, pour comprendre le rôle essentiel de la radio pendant la Seconde Guerre mondiale. Exposition passionnante aux Invalides à Paris.
France Inter.
Quatre murs et un plafond, seul horizon pour 16 millions de femmes afghanes depuis le retour des talibans il y a bientôt 2 mois. La moitié des habitants d'un pays claquemurés pour ne pas croiser l'autre. Et ce sont les femmes qui doivent s'effacer devant les hommes, renoncer au travail, aux études, à la parole. Des interdits que certaines osent braver. Bonjour Valérie Crova.
Bonjour.
Vous revenez d'Afghanistan et c'est la voix d'une jeune femme que vous allez nous faire entendre, une activiste de Kaboul qui a choisi de ne pas se taire.
Oui, elle s'appelle Soudaba Kabiri. Elle insiste pour que nous donnions son vrai nom. Cette étudiante est originaire de la vallée du Panjshir, comme le commandant Massoud, son modèle. Elle a été l'une des toutes premières à manifester le 17 août devant le palais présidentiel, 2 jours après l'entrée des talibans à Kaboul. Et voici comment elle décrit les fondamentalistes en quelques mots.
Ils sont grossiers, ils sont misogynes, ils sont contre les femmes, contre les droits des femmes. C'est ça la réalité des talibans.
Soudaba aurait pu quitter l'Afghanistan, mais elle a décidé de se battre de l'intérieur avec toute l'énergie de ses 24 ans et les armes de son temps.
La seule chose avec laquelle on peut se battre contre eux, ce sont les réseaux sociaux. Sous le dernier régime des talibans, ça n'existait pas. Mais aujourd'hui, on a tous un téléphone sur soi avec lequel on peut filmer leurs réactions. Grâce à cela, on peut prendre le risque de s'opposer à eux, à leur misogynie. Je suis heureuse que ma génération ait cette possibilité.
Soudaba change régulièrement de domicile car elle se sait surveillée par les talibans. Sa famille a également reçu des menaces. Si elle prend le risque de les affronter ouvertement, c'est parce qu'elle veut être celle qui porte la voix de toutes les femmes afghanes.
Ils doivent nous accepter dans cette société. Ils ne peuvent pas nous supprimer, nous isoler, nous exclure. Parce que nous faisons partie de cette société. Nous voulons nos droits. Nos droits ne sont pas un privilège. C'est le droit de tout le monde d'avoir une éducation, un travail, de choisir ce qu'on a envie de porter comme vêtement. Ce n'est pas un privilège.
Hors de question de vivre dans une prison où les talibans veulent nous enfermer, dit-elle, d'où cet appel qu'elle lance depuis Kaboul.
Ce n'est pas seulement ma demande, mais celle de toutes les femmes en Afghanistan. Ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît, on a besoin de votre aide.
Les talibans n'ont pas hésité à frapper les femmes qui ont osé les braver. Depuis, ils ont interdit les manifestations. Soudaba et son groupe de militantes ne lâchent rien. Elles préparent une nouvelle action pour le 10 octobre, journée de mobilisation en faveur des femmes afghanes à travers le monde.
Valérie Crova, de retour de Kaboul, merci et pas de reconnaissance des talibans sans respect de la dignité des femmes et des droits de l'homme, condition sine qua non, posée par Emmanuel Macron sur France Inter ce matin au micro de Léa Salamé. Interview exceptionnelle à l'occasion de cette journée spéciale avec les Afghanes sur France Inter qui s'achèvera ce soir avec un grand concert en direct de la Maison de la Radio. Et on a entendu l'importance des réseaux sociaux dans le combat des femmes afghanes, des réseaux tombés en carafe hier pendant 7 heures. WhatsApp, Messenger, Facebook et Instagram utilisés par 3 milliards et demi de personnes sur Terre victimes d'une panne liée à un problème de serveur. Les communications ont été rétablies dans la nuit.
Il est 8h05. Quelle est l'ampleur des crimes de pédophilie, Florence, commis au sein de l'Église depuis les années 50?
C'est ce que révélera dans une heure la commission indépendante chargée de faire la lumière sur ces abus. Il s'annonce massif, avec un nombre de victimes à 6 chiffres, soit au moins 100 000, et un nombre de bourreaux qui a déjà été donné autour de 3 000. Ce rapport, c'est certain, fera l'effet d'une bombe dans l'institution qu'il a elle-même commandée, alors que certains croyants semblent ne pas encore avoir pris conscience du phénomène, comme ces jeunes catholiques qu'a rencontré Rémi Brancato à l'aumônerie de Saint-Quentin en Yvelines, à l'aumônerie de l'université de Saint-Quentin en Yvelines.
Dans le local de la paroisse, c'est la pause déjeuner pour une trentaine d'étudiants de Saint-Quentin en Yvelines. Max, famille catholique, vient régulièrement ici. On y parle de tout, mais très peu du rapport de la commission sur les abus sexuels dans l'église.
La première fois que j'ai entendu parler de cette commission-là, on devait être à table et on écoutait la radio. On a échangé 2-3 mots avec mes parents, on n'en avait jamais parlé avant.
La plupart des étudiants n'a pas suivi les travaux de la commission Sauvé.
Quand je pose la question, tout le monde tombe de l'armoire. Peut-être que c'est parce que ce travail a été lancé il y a 2-3 ans, ils étaient lycéens et ça les touchait pas du tout.
Le père Martin Guyot, qui anime l'aumônerie, lui, se prépare à la publication du rapport. Il organisera des réunions pour en parler.
Prendre le rapport Sauvé tel qu'il va être écrit et lire verbatim des témoignages de victimes me semble très important. J'espère que ça va faire un électrochoc.
Un électrochoc que certains jeunes voient venir, comme François Calixte, très pratiquant, qui s'inquiète pour l'Église, mais pas pour sa foi.
La foi, c'est une question de relation à Dieu. C'est pas parce que des prêtres commettent des crimes abominables que ma relation est entachée de quoi que ce soit. Je crois que pour un renouveau de l'Église, il faut peut-être se prendre des grandes taloches pour avancer.
Pour la plupart ici, comme Maïlys, étudiante en droit, l'Église doit regarder en face cette réalité.
Il y a aussi besoin de se rendre compte de l'ampleur des dégâts qu'il y a pu avoir dans l'Église. Moi, j'attends plutôt les réponses de l'Église face à ça.
Car tous les étudiants ici l'assurent, l'Église sortira grandie de cet exercice de transparence.
Et le rapport de la commission Sauvé, remis publiquement dans moins d'une heure à l'épiscopat français, ne se contentera pas d'un état des lieux. Il doit énumérer 45 propositions pour l'écoute des victimes, la prévention et la formation des religieux.
Il est 8h07, le danger, Florence, est écarté ce matin dans le sud-est de la France.
Vigilance levée partout après une journée de chaos hier où il est tombé l'équivalent de plusieurs mois de pluie en quelques heures dans le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône. À Marseille, deuxième ville de France, l'eau a souvent recouvert le bitume, emportant avec elle les ordures qui n'avaient pas été ramassées la semaine dernière à cause de la grève des éboueurs. Ces déchets, Valentin Dunat, vont donc finir en partie dans la mer.
Des tas de poubelles, de déchets, il y en a dans toute la ville et c'est en partie ce qui a obstrué les évacuations d'eau ici.
C'est la Val-Barère, le quartier de la Val-Barère, dans le 11e à Marseille. La poubelle, c'est toute la route, on voit que ça reste dans l'état actuel et malheureusement, il y en a de partout. Il y en a de partout.
Et ce, suite à une grève des éboueurs qui s'est pourtant terminée vendredi dernier, mais qui a toujours de fortes conséquences, ce qu'a du mal à comprendre Nadine qui habite le quartier.
Laisser les poubelles comme ça un certain temps, c'est quand même abusé, quoi. Je pense que dans beaucoup de villes d'ailleurs, effectivement, ils manifestent, bon, ça c'est leur droit et tout ça, mais je pense que les poubelles, au bout d'un moment, elles sont ramassées quand même, quoi. Parce qu'il y a quand même, au niveau sanitaire, c'est pas top, quoi.
C'est même une catastrophe écologique pour l'association Clean My Calanque. Éric Acopian est le président de cette association de jeunes qui organise des randonnées de ramassage de déchets.
Ce qui nous inquiète, c'est qu'il y a beaucoup de déchets qu'on n'aura pas la chance, entre guillemets, de récupérer. Tous ces déchets qu'on voit, ils finissent en Méditerranée, ils finissent dans nos poissons, ils finissent dans nos assiettes. Et nous, c'est ça, en fait, qui nous saoule. C'est, encore une fois, Marseille, on se démène pour donner une bonne image et tout. Et là, en 48 heures.
Dans les jours qui viennent, sur les plages, des ramassages seront donc organisés pour tenter d'enlever une partie de ces tonnes de déchets.
Et le maire de Marseille, Benoît Payan, demande au gouvernement de décréter l'état de catastrophe naturelle à Marseille, où les écoles vont rouvrir aujourd'hui, sauf 11 d'entre elles qui ont subi des dégâts et qui vont rester fermées. Grève et manifestations, les syndicats aussi entrent en campagne à 6 mois de la présidentielle. Journée d'action ce mardi pour les salaires et contre la réforme de l'assurance chômage. À l'appel de la CGT, FO Solidaire, la FSU et des organisations de jeunesse. Peu de perturbations attendues dans les transports. Et puisqu'on parle de salaire, à quand des augmentations dans l'hôtellerie-restauration qui manque de bras? Elles sont sur la table, selon la principale organisation du secteur, l'UMI, dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. 6 à 9% de hausse des salaires et pourquoi pas un 13e mois. Voilà ce qui sera proposé aux syndicats. Venez à moi les déçus du Rassemblement National. Ce pourrait être le credo d'Éric Zemmour et sa marche. Le polémiste, toujours pas candidat à la présidentielle, voit son aura monter dans les sondages au détriment de Marine Le Pen. Il est soutenu par le patriarche de l'extrême droite française, Jean-Marie Le Pen, et par tous ceux qui trouvent que la ligne actuelle du Rassemblement National est trop molle, Élodie Forêt.
Ce n'est pas une hémorragie, c'est une lame de fond, analyse Arnaud Imbert. Cet ex-patron du RN dans les Deux-Sèvres a claqué la porte fin juin, emmenant avec lui tout le bureau dans l'aventure Zemmour.
Moi, je pense clairement que c'est dû à une victoire possible avec Éric Zemmour, alors qu'on sait très bien que ça sera très compliqué pour Marine Le Pen de remporter la majorité, l'adhésion des Français. On a l'impression qu'elle est toujours à contre-temps, qu'à partir du moment où il y a des choses qui sont entrées dans l'inconscient collectif et dans le constat commun, elle se met en marge de ce qu'elle pouvait annoncer avant.
Comme lui, plusieurs cadres locaux ont pris la tangente, principalement d'anciens conseillers régionaux qui n'ont pas été réinvestis et qui ouvrent leur répertoire aux amis de Zemmour pour chercher les parrainages. Un ancien frontiste sourit. On dit qu'il n'a pas de parti, mais c'est faux. Il a tout le Front National hors les murs. Quant aux cadres actuels, les gens ne partent pas encore, constatent les élus du Sud. En revanche, les militants, les sympathisants sont bien séduits par le polémiste et ses discours radicaux. Sur les marchés, raconte un proche de Marion Maréchal. Les vieux militants me disent qu'ils ont retrouvé leur Jean-Marie. Un intérêt croissant pour Zemmour, dont le RN a aujourd'hui conscience, plus une réunion sans qu'il ne soit évoqué. Et des solutions amorcées comme cette tournée des cadres dans les fédérations pour tenter de remobiliser les troupes.
Élodie Forêt, encore une démonstration de force de la Chine dans le détroit de Formos. 56 avions de l'armée chinoise ont survolé la zone de défense de Taïwan hier. Washington se dit très inquiet. Les provocations chinoises vont crescendo depuis vendredi contre cette île indépendante que Pékin considère comme sa 23e province. En Angleterre, y aura-t-il encore du bacon dans les œufs du matin? Question très sérieuse alors que le pays manque de bouchers. C'est encore une conséquence du double effet Brexit-Covid. Et le résultat, ce sont ces cochons que leurs éleveurs sont contraints de tuer sans pouvoir les vendre. Ils ont manifesté hier devant le congrès annuel des conservateurs à Manchester, où se trouvait Richard Place.
Il grelotte sur un trottoir vêtu d'un t-shirt blanc. Il est écrit « Sauvez notre bacon » au-dessus d'un drapeau du Royaume-Uni. Quelques mètres plus loin, dans les salles de conférence, se croisent les députés et les ministres. Ce sont eux qu'ils veulent alerter. Duncan est vétérinaire, il fait partie de ce petit attroupement. Il raconte des élevages débordés, trop de cochons, et personne au bout de la chaîne pour s'en occuper avant la commercialisation.
Nous n'avons pas assez de bouchers qualifiés capables de découper ces cochons. Notre seule option finira par être de les tuer dans les fermes et ensuite les incinérer.
Une situation due à la fois à la pandémie et au Brexit. Vicky Scott n'en revient pas. Elle est éleveuse de porc dans le Yorkshire. Elle a voté pour sortir de l'Europe. Ce n'est pas ce qu'elle imaginait.
On n'a clairement pas voté pour ça, c'est fou. L'idée du Brexit était d'unifier le pays et de soutenir notre industrie. C'est aberrant. Les éleveurs sont mécontents, bien sûr, mais ça convient au gouvernement et aux revendeurs qui font venir de la viande de l'étranger.
Elle qui voulait privilégier la production made in Britain et la main-d'œuvre nationale se retrouve aujourd'hui à demander des permis exceptionnels pour des professionnels étrangers. Elle précise, même s'ils ne parlent pas anglais, ce n'est pas grave. Manchester, Richard Place, France Inter.
Et sauver le bacon anglais, ça n'est pas sa tasse de thé ou plutôt sa vodka martini, non. James Bond sauve le monde. En règle générale, on pourra de nouveau le constater demain au cinéma avec Mourir peut attendre, dernier de la série des Daniel Craig, et se payer pour l'occasion la célèbre Aston Martin de 007 avec siège éjectable et plaque d'immatriculation tournante. Alors, en beaucoup plus petit et beaucoup moins cher, puisque c'est la version Playmobil dont on parle, qui comme un joué sur 4 en France et vendu sous licence, c'est-à-dire adossé à une grande marque ou à un film. Dernier exemple, Agnès Soubiran d'un business qui tourne à plein régime.
James Bond boit du champagne, c'est forcément un champagne Bollinger, résultat d'un gentleman agreement, une longue relation de confiance entre le producteur de vin et le producteur de la saga, où il n'est pas question d'argent. En revanche, lorsqu'à chaque sortie de film, Bollinger propose une cuvée spéciale, c'est le régime classique de la licence qui s'applique. Charles Armand de Belnay, directeur général de Bollinger.
Quand on sort des séries limitées où on utilise le signe 007, par exemple, ou le signe de James Bond, effectivement, on doit payer des droits d'utilisation.
Et peut-on savoir le montant des droits ?
Non, bien entendu. Tout ce qui concerne James Bond est secret. Hein.
Dans le domaine du jouet, les experts estiment que 5 à 20% du prix du jouet revient à la marque et c'est devenu un modèle de développement incontournable, estime Nathalie Chouraki, experte en licence de marque.
Playmobil, pour vendre mieux une voiture, a priori n'a besoin de personne. Sauf que pour vendre l'Aston Martin de James Bond et donc toucher une cible qui n'est pas forcément les enfants, mais peut-être aussi les collectionneurs, aussi peut-être les adultes, les dingos de James Bond, qui vont à ce moment-là venir grossir le marché des clients de Playmobil, qui n'était pas la cible première.
Parmi les premiers à avoir compris l'importance de la licence, le groupe Lego, qui avec ses collaborations Star Wars et Harry Potter, est devenu le numéro un mondial du jouet.
Agnès Soubiran est de Londres à Paris. Ce sont les bons et les méchants qui s'exprimaient sur les ondes il y a 80 ans. C'était la guerre et la radio était essentielle. Dans les deux camps, une guerre des ondes à revivre aux Invalides à Paris, au musée de l'Ordre de la Libération. L'exposition est absolument passionnante, Alexandra Akoun.
Trois radios qui naissent dans un mouchoir de poche à l'été 1940. Radio Paris, contrôlée par l'occupant allemand. Radio Vichy, la radiodiffusion nationale, antenne de la collaboration.
Ici Vichy, la voix de la France.
Et depuis les studios de la BBC, de l'autre côté du channel, Radio Londres.
Les Français parlent aux Français.
Trois armes de guerre psychologique qui, jusqu'à la libération, vont se livrer une guerre sans merci.
Pour les Allemands, par exemple, et pour Vichy, BBC, c'est Bobard et Bourrage de crâne.
Lionel Duquesne est le commissaire de l'exposition.
Il faut toujours montrer que l'autre ment et que nous, on dit la vérité.
Radio Paris.
Évidemment, Radio Londres, les Français parlent aux Français, relatent les mensonges des Allemands. Les Allemands, eux, sont pas toujours d'ailleurs très favorables non plus à Radio Vichy. Ils ne trouvent pas assez engagés dans la collaboration, pas assez engagés contre l'Angleterre.
À découvrir également la relation avec les auditeurs et cet incroyable sondage sur Radio Londres que la BBC a envoyé vers la France par pigeons voyageurs.
En fait, il parachute des pigeons avec ses graines pour qu'ils puissent manger et avec un petit sondage à remettre aux pigeons et à faire redécoller le pigeon qui va rentrer à Londres.
Autre pépite, un enregistrement de Winston Churchill en français, s'il vous plaît.
C'est moi, Churchill, qui vous parle.
Depuis, la prise de son s'est quelque peu améliorée, mais la radio reste le média auquel les Français accordent le plus leur confiance.
Et je marche encore avec vous.
C'est absolument savoureux et ça se passe donc au musée de l'Ordre de la Libération aux Invalides à l'occasion du centenaire de la radio.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Parce que votre activité n'attend pas. Les services en ligne Euromaster sont accessibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Marie-Pierre, de nouveau, une perturbation va balayer le pays.
Oui, Nicolas, elle sera quand même un petit peu moins active que celle d'hier et déjà après le passage de cette dépression, le ciel breton hésite entre éclaircies ou averses, mais toujours du vent fort et déjà les pluies et le vent balayent aussi les Hauts-de-France à la Normandie en descendant vers la région parisienne, au Val-de-Loire jusqu'au Pays Basque et puis sur la moitié Est. Le temps est un peu plus calme ce matin avec encore des résidus de la perturbation d'hier qui s'échappent par les Alpes sous un mercure contrasté, seulement 2 degrés en Haute-Loire, 4 à Noiretable dans la Loire, alors qu'il fait 19 à Figari et Menton. Vous avez 8 à Nancy, 12 à Quimper, à Paris et Bordeaux.
Et cette perturbation se décale vers l'est dans l'après-midi.
Et on va la retrouver des Ardennes au Grand Est en descendant vers l'Auvergne jusqu'à la région PACA, au Massif central, aux Pyrénées avec donc ces pluies et du vent. Les éclaircies par contre vont revenir en alternance avec des averses sur la moitié ouest avec aussi du vent qui va souffler à 80 km/h à l'intérieur du pays, 90 près de la Manche. Seuls les bords de la Méditerranée vont rester à l'écart du mauvais temps malgré un ciel souvent nuageux et orageux. Encore sous le vent va souffler à 100 km par heure entre le Cap Corse et le littoral varois. Vous aurez 12 à Aurillac, 14 à Langres, 15 à Vallon, 16 à Lille et Lyon, 17 à Paris et Le Mans, 19 à Bayonne, 20 à Marseille et 24 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
France Inter, il est 8h18.